Mascorade. Des entretiens proposés par Emmanuel, confiné à Verfeil, sur CFM. Salut, c'est Emmanuel sur CFM. Pour ce premier épisode de Mascorade, vous entendrez Yves, journaliste à Ottawa-Gatineau, que je n'ai pas vu depuis 20 ans et que j'appelle depuis ma cuisine, le 27 mars, et dont le journal subit déjà les conséquences de la célèbre pandémie du coronavirus. C'est ensuite mon amie Aline que nous entendrons chez elle pendant son jour de congé, le 30 mars. Infirmière au CHU de Grenoble, le plus gros hôpital de la ville, elle nous parle ici du début de l'épidémie. Nous la retrouverons dans un prochain épisode quelques semaines plus tard. Bonne écoute.
Salut.
Bonjour.
Je te laisse te présenter.
Bonjour, moi mon nom c'est Yves Pergeras et puis je suis canadien, je vis au Canada depuis une vingtaine d'années. Je suis journaliste culturel pour le journal Le Droit qui est un quotidien papier de la région d'Ottawa et Gatineau, donc la capitale fédérale. Journal francophone, et quand je dis journal papier, en fait, je suis en train de vous abuser, puisqu'on n'a plus officiellement de journal papier depuis 2 jours, puisque les revenus publicitaires très associés à la bonne marche d'un journal se sont un peu écroulés à cause de la pandémie de Covid et que les publicitaires n'annoncent plus parce que les boutiques ferment et qu'ils n'ont plus rien à vendre dans l'immédiat. Et qu'on a procédé donc en urgence dans la foulée du mode télétravail. On a coupé, le groupe auquel fait partie mon journal a coupé à peu près 140 postes, dont tous ceux qui s'occupaient ici de la production papier. Donc voilà, on n'a plus de journal papier, sauf une édition le samedi à partir de demain. Donc ça va, puis en même temps, ça ne va pas super bien.
Donc toi, ça fait combien de temps là que vous êtes en confinement chez vous ?
Ça fait depuis vendredi dernier. Ça fait
une semaine.
Une dizaine de jours. Là.
Comment tu vis ça, toi ?
Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une dimension de solitude qui est un petit peu délicate. Moi, je suis père monoparental une semaine sur deux. La première semaine, j'avais mes enfants, donc il y avait de l'activité, ça bruyait, ça bruissait. Ça allait bien, mais depuis cette semaine, par contre, j'étais complètement seul, reclus. Donc, solitude, oui, c'est sûr que c'est difficile. L'homme est un animal sociable. En même temps, le fait qu'on m'ait imposé des mesures de télétravail, ça fait en sorte que je peux m'estimer heureux et chanceux parce que j'ai quand même beaucoup d'interactions avec mes collègues de travail. Des petites rencontres éditoriales en vidéoconférence. Donc, il y a quand même des interactions. Mais c'est vrai que même si la plupart des échanges se font par texto, par email, etc., tu sens qu'après 2-3 échanges, il y a un agacement, puis là, on veut se parler. Un, parce que ça va plus vite, puis deux, parce que aussi, entendre la voix de quelqu'un, je ne sais pas, il y a une chaleur dans l'échange que le courrier n'aura pas, quoi.
Tu habites dans une ville, donc est-ce que tu entends le silence ? Comment ça se manifeste ?
Comme je suis toujours en train de bosser, c'est vrai que je ne sors pas trop, contrairement aux amis qui continuent, qui profitent de ce temps-là pour malgré tout et faire du vélo, marcher autour de la maison, promener le chien, etc. Moi, j'avoue que je suis un petit peu captif de mon environnement professionnel. Oui, il m'est arrivé d'avoir des déplacements à faire, professionnels ou extra-professionnels. Et effectivement, tu te rends bien compte que les rues sont désertes, qu'il y a une atmosphère qui n'est pas une atmosphère de fin du monde, mais qui s'y approche, quoi. Mais tu sens ce manque-là qui s'exprime de cette façon-là. Ce que je constate aussi, mais ça, ce n'est pas forcément ce que je vois de visu, c'est ce que je constate à travers les réseaux sociaux, ce que les gens font, ce que les gens disent, ce qui s'échange, je sens quand même une envie de profiter de ça pour être plus solidaire, pour être plus dans l'entraide, dans l'accueil. Ce qui perturbe vraiment, c'est nos habitudes au quotidien qui ont été complètement bouleversées en très peu de temps. Ça ne nous a pas laissé énormément de temps pour réagir. Puis ça, c'est une source de stress. On est tous inquiets, c'est sûr qu'on est tous inquiets. C'est pas seulement inquiet par le risque sanitaire qu'on encourt à sortir. Moi, je suis plus inquiet en fait par les conséquences à court et moyen terme de cette crise-là. C'est que le sentiment que j'en ai, c'est que le système économique, il est en train de vaciller et qu'il risque, si ça se prolonge, de s'écrouler.
Et politiquement, parce que tu vois, en France, par exemple, ils ont pris des mesures donc assez martiales.
Bien sûr, les gouvernements disent qu'ils n'excluent pas de recourir à des moyens beaucoup plus drastiques s'ils jugeaient nécessaire de le faire. En Europe, où on a très peur de Big Brother, il y a des choses qui vous feraient bondir probablement. Il y a deux jours, le gouvernement provincial a dit effectivement qu'ils étaient prêts à envisager de demander aux fournisseurs d'accès Internet et aux fournisseurs de téléphonie les données qui permettraient au gouvernement finalement de savoir précisément où sont les gens en tout temps pour voir si éventuellement il y a des poches de rassemblement qui sont un petit peu à risque et qui leur permettraient ensuite de faire le ménage, quoi. Ça, je pense qu'en France, avec la commission informatique et liberté et tout ce qui s'en découle, ça passerait très très mal, quoi, de tenir ce discours-là. Mais reste que, pour l'instant, c'est dans l'ordre du plausible, du peut-être, mais qu'on n'est pas là parce que, comme je te dis, les Canadiens ont un comportement très civil tout le temps. Ça fait partie, je pense, de leur ADN. Ils hésitent à traverser en dehors des passages cloutés. Donc, quand on leur dit rester à la maison pour une question de sécurité de tout le monde, pas seulement la vôtre, mais celle des personnes âgées, ils suivent le mouvement avec une docilité et une bienveillance immédiate, ce qui effectivement ne semble pas avoir été le cas en France, en tout cas vu d'ici. Dans nos interactions humaines, on a aussi une culture plus nord-américaine, voire même peut-être, je ne sais pas, britannique, ce qui fait que la distance sociale, en temps normal, la distance sociale qu'on a est déjà beaucoup plus grande. Donc, c'est peut-être plus facile pour nous d'envisager d'agrandir sa bulle et de laisser pénétrer personne dedans, quoi.
Tu pourrais me dire ce qui te réjouit le plus dans ce moment particulier ?
Mis à part... C'est délicat de dire ça, mais surtout de la part d'un journaliste. Non, je peux pas dire que ça me réjouit, mais la chose qui me rassure un peu, c'est que peut-être ça va nous forcer à jeter les bases d'un nouveau monde, mais d'un nouveau, au pluriel, de nouveaux systèmes d'échange. Je me dis que si la crise dure assez longtemps, comme elle est partie pour le faire, on va forcément adapter nos comportements à long terme, les modifier au point de plus nécessairement avoir envie de retourner à ce qu'on faisait avant. Ensuite, je crois que cette crise est aussi l'occasion d'un certain ressourcement. Je pense qu'on a été longtemps, en tout cas, moi c'est comme ça que je le sens, pris dans une espèce de course effrénée au rendement, à la productivité. Puis là, on est en mode oisif. Il faut se trouver des choses à faire. Il faut réapprendre des choses qu'on savait faire il n'y a pas si longtemps en termes de génération. Il faut réapprendre le plaisir de, pas de s'ennuyer, mais de faire des choses qui ne sont pas... qui ne sont pas magnétiques, simplement lire, simplement se parler quand on a la chance d'être ensemble, approfondir les relations humaines qu'on avait qui étaient étouffées peut-être dans le bruit étourdissant qu'il y avait autour de nous. Je pense qu'on on n'en sortira pas indemne et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
Et donc, dans ce qui t'inquiète le plus, tu dirais quoi ?
La peur de crever, elle est là, c'est sûr, mais elle est rationalisée. Bon, je veux dire, je pose les gestes barrières, comme on dit. Donc, statistiquement, il n'y a pas plus de chances que je meure maintenant qu'à l'époque où il n'y avait pas le Covid. Et on prenait l'avion et on prenait la voiture et il y avait des risques d'accident et on garde. Mais par contre, la crise économique qui s'en vient me terrifie.
Ah, carrément.
Les perspectives de perdre son boulot et de ne pas en trouver parce que c'est la même débandade pour tout le monde, bien sûr que ça m'effraie. Pas forcément parce que je vais manquer de pognon, mais parce que c'est aussi une façon de se définir, hein, le boulot. Si je ne suis plus journaliste, qu'est-ce que je suis ? Oui, heureusement, je suis bien d'autres choses, mais il va falloir aussi que je réapprenne à être toutes ces autres choses si je me retrouve du jour au lendemain sans salaire.
Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas ? Est-ce que vous faites des apéros Skype ou...
Je ne me suis pas encore mis aux apéros Skype. Je ne suis pas encore mis à ça, même si on m'a déjà proposé, sollicité. Là, je me cache derrière l'excuse que j'ai trop de boulot. Mais je vais y venir. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, le manque va être suffisamment fort pour que je cède aux sirènes de l'apéro Skype.
Bon, bah alors à bientôt.
Ok.
Ciao.
Salut.
Salut, lundi 30 mars, on est avec Aline qui est infirmière à Grenoble. Salut Aline.
Salut Manu.
Comment tu la vis, toi, cette situation ici, d'abord personnellement ?
Eh bien, personnellement, donc, comme je disais, vu que je suis obligée d'aller au boulot en tant qu'infirmière, je ne suis pas au boulot, je suis confinée à la maison avec mes enfants et mon conjoint.
Ouais, ça va ? Ça se passe bien ?
Ben nous, ça se passe bien parce qu'en fait, vu qu'on a une maison, donc on peut sortir dehors sans aller justement hors de la maison. Donc, ça se gère. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ils font leurs devoirs surtout.
Professionnellement, alors ?
Eh ben, professionnellement, vu que je travaille donc à l'hôpital en tant qu'infirmière, donc j'ai l'obligation d'aller au travail. On n'est pas encore réquisitionné, mais bon, si ça devait se produire, je serais obligée d'y aller. Donc là, en fait, je n'ai pas le choix, hein, j'y vais. Et donc, étant donné l'avancée du Covid-19, bah, ils ont pris des mesures. Et puis, mon service, à partir d'aujourd'hui, bah, il passe en Covid-19, médecine Covid-19.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à recevoir les premières personnes qui ont été contaminées par le Covid-19. Donc, ils ne sont plus en phase aiguë, ils sont stabilisés, mais potentiellement toujours contagieux. En fait, il y a plusieurs services qui ont fermé, ils ont déprogrammé toutes les chirurgies, tout ça, donc plein de services ont fermé. Ils nous ont envoyé du personnel pour les former, pour qu'ils puissent nous aider en temps et en heure quand viendra la fameuse vague. Et du coup, bah, au quotidien, on a des services qui changent tout le temps.
Et là, comment ça se passe, par exemple, c'est quand quelqu'un arrive à l'hôpital et qui dit présenter des symptômes. Et vous le testez, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, en fait, aux urgences, ils ont fait deux filières, une filière non-Covid et une filière Covid. C'est-à-dire que les patients qui se présentent avec une détresse respiratoire et de la fièvre, ils sont dirigés tout de suite en mode Covid et ils sont dépistés tout de suite, baricouvillonnage nasal. Et en fonction des résultats, ben, soit ils sont envoyés dans un service Covid, soit ils sont renvoyés dans un autre service dédié à la pathologie ou renvoyés à la maison s'ils n'ont rien.
Vous avez beaucoup de gens qui arrivent aux urgences ou ça va, les gens ils se régulent un peu ou c'est la panique? C'est quoi l'ambiance un peu?
Moi, je n'ai pas trop accès aux urgences, mais bon, je passe tous les jours devant. Effectivement, il y a beaucoup moins de personnes qui arrivent aux urgences par rapport à habituel, en temps normal, quoi. Il n'y a pas de file d'attente, il n'y a rien. Nous, dans les services, Moi, je suis un service où on reçoit justement les patients âgés, donc à partir de 75 ans. Oui. Donc, je reçois des patients âgés qui arrivent aux urgences et du coup, après, ils montent dans mon service.
D'accord. Donc, en plus, d'après ce que j'ai pu comprendre, à Grenoble, vous n'êtes pas pour l'instant débordé, donc vous avez pu bien vous préparer, non ?
Ouais, c'est ça. Bizarrement, Grenoble, mais je pense que c'est en lien avec les vacances de février. On a 10 jours de retard par rapport à la nationale. Point de vue national, on a 10 jours de retard sur la contamination, la contagion, la contamination. Mais aussi bien, peut-être, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, on en a moins de patients contaminés. Hein. Mais du coup, on reçoit les patients des autres régions du coup. On a reçu 2 de Franche-Comté.
Ok. Et du coup, ça change quoi pour toi dans ta vie
Eh ben moi, ça change que j'y vais quand même avec la boule au ventre en me disant j'espère que je vais pas me contaminer. Tu ramènes ça potentiellement à la maison. Donc ça rajoute de l'angoisse sur un boulot qui est déjà pas facile à la base. Donc beaucoup de stress.
Je vais nous parler de tes conditions de travail. En général, en tant qu'infirmière ?
Oui, tu sais, nous, le problème, c'est qu'en fait, nous, on est obligé d'aller au boulot. Donc, à chaque fois qu'il y a des grèves, le principe, on se met un scotch marqué en grève sur le dos et on travaille quand même. Donc, tu vois, ça ne change rien, quoi. Et maintenant, on nous porte comme les héros de la nation, quoi. Donc, c'est se fiche un peu de notre gueule, mais bon, c'est comme ça.
Tu éprouves quoi, toi, par rapport à ça ? Ça te fout les boules ou... J'espère que du coup vos conditions elles vont changer. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, il faut toujours garder un petit peu d'optimisme en disant qu'on espère bien sûr que les conditions vont changer. Mais ce sera vite oublié cet épisode, à mon avis.
Tu penses que tout va rentrer dans l'ordre après
Ouais, je pense qu'on va nous oublier comme ils l'ont fait ces dernières années. Ouais. Je pense, oui.
Qu'est-ce qui te réjouit le plus dans cette période étrange qu'on vit?
Qu'est-ce qui me réjouit le plus? Bonne question. En fait, non, mais je ne suis pas encore passée au stade des réjouissances. Je suis dans le flippé total, la réjouissance, je ne suis pas encore là. Honnêtement, tu vois, même si les gens, tu vois, il y a un énorme élan de solidarité, entre guillemets, je dirais, parce que c'est toujours du guillemets, c'est pour nous soutenir. On reçoit régulièrement à manger, tu vois, des pizzas, enfin, tout ce que tu veux et tout. Et moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que nous, en bas du CHU, il y a des sans domicile fixe, tu vois, et il y a un monsieur, il est tout le temps là et personne ne lui donne rien. Donc, moi, ça me... qu'ils le fassent pour les personnes qui sont dehors, quoi, je sais pas.
Ouais.
Et les applaudissements, ça, c'est vrai que ça émeut un peu, mais après, non, réjouissance, non, je suis un petit peu dans le négatif là, mais bon, ça reviendra.
Et qu'est-ce qui t'inquiète le plus ?
Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on soit débordé, parce que là, pour l'instant, mon service, comme je te disais, à partir d'aujourd'hui, on ouvre pour les Covid. Donc, on va avoir 12, que je dise pas, entre 12 ou 14 patients. Sauf que, et potentiellement, on pourra doubler les chambres. Ils nous ont mis des effectifs pour 12, mais s'ils doublent les patients, il va falloir doubler les effectifs aussi. Et moi, j'ai peur qu'après, ça ne suive pas, quoi.
Au niveau du personnel soignant, tu veux dire ?
Ouais, exactement, ouais. Pour l'instant, sur le papier, on va dire c'est tout beau, c'est tout rose parce qu'il y a les effectifs, il y a le nombre de patients qu'ils ont prévu de prendre. Si jamais le nombre de patients déborde, j'ai peur qu'on soit en la ramasse, quoi. Donc, on verra.
À suivre, alors.
Eh ben oui, de toute façon, à suivre. Hein. Là, on a reçu les masques, on a reçu les trucs. Bon, il va y avoir des pénuries d'autres choses. Hein. De toute façon, si ce n'est pas les masques, puisqu'ils n'anticipent pas, j'ai l'impression. Mais bon, on y va physiquement. S'il n'y a pas de matos, on va bosser, on est obligé d'y aller. Donc, on va bosser physiquement, on y va. Mais sur place, on ne fera rien si on n'a pas de matos.
Ben, merci, Aline.
Tant pis, Manu.
Ciao.
Ciao.
Ciao à toutes et à tous, au plaisir de vous retrouver à l'épisode suivant pour parcourir avec nous le monde que nous habitons et les mondes qui nous habitent. Ciao.